Radio Royan et les amis du Vieux Saint-André vous proposent un feuilleton balade patrimoniale, les maisons fortes de Saint-Romain. Sous la conduite de Marie-Noël et François Capéran, l'association a invité pour ce début du mois d'avril 2013 des passionnés et autres curieux de patrimoine à réaliser un itinéraire empreint d'histoire autour et dans le village de Saint-Romain. Ce circuit numéro 5 est extrait du guide Bienvenue à Saint-André, édité par l'association.
C'est ce qui m'intéresse, de connaître un peu.
Premier épisode, accueil des participants au lieu dit Les Cantes à Saint-Romain et départ pour les premières maisons fortes.
Alors là, nous sommes à la station Sentier Bois des Cantes. Mais une partie du groupe a déjà fait la balade et a démarré à Saint-André, au joli petit village de Saint-André-en-Royans. Nous avons pris le chemin derrière l'école et nous nous sommes dirigés vers le quartier de dit procureur, parce qu'il y avait autrefois un procureur du roi. Qui est en fait un greffier, un officier de l'administration d'époque. Et dans ce nom de procureur vient donc du fait que de la fonction du propriétaire d'époque, mais pour les gens d'ici, ça sera plus facile de retenir que c'est là où a été élevé le grand-père Glénat, des transports Glénat, la Patache et tout. En fait, il est né et il a été élevé à procureur. Voilà, après nous avons continué les sentiers passant par la plaine. On a tous constaté que c'était une exposition formidable. Autrefois, il y avait beaucoup de vignes. On faisait les vendanges à la plaine. Il y avait même des melons, c'est un coin bien exposé et du bon petit vin. Après, nous avons continué dans la combe de l'Effarage pour rejoindre le quartier des Granges. Alors, les Granges étaient le lieu d'habitation des grangiers de l'époque aussi. C'est un coin assez marécageux et où on cultivait beaucoup le chanvre. Tout ça pour vous dire qu'après, on a pénétré un tout petit peu dans le bois et à l'orée du bois, on s'est retrouvé à la cabotte ficelle. Beaucoup de gens connaissent la cabotte ficelle. Il paraît qu'on s'amusait bien à la cabotte ficelle. C'était pas un peu petit, mais c'était un lieu de rendez-vous, paraît-il. Mais entre autres, un lieu où on fabriquait des cordes, des ficelles. C'est pour ça que voilà. Après, nous avons pénétré dans le bois, les bois de Robéyère, et nous sommes sortis par le quartier des Cantes que l'on aperçoit ici. Et à la base de ce bois, il y a une très belle maison d'époque, la maison des Cantes. Alors la maison des Cantes a été habitée, on le sait, par un certain Noé Martin en 1700. Sa fille s'est mariée avec un Joseph Blanc. C'était des personnages importants, hein. Il est même inhumé, le Joseph Blanc est inhumé dans l'église de Saint-Romain. Et une autre fille s'est mariée avec un Jacques Thérault, que beaucoup ceux qui font des recherches connaissent, c'est le notaire de Pont-en-Royans. Deux beaux-frères, Desmarais et Thérault, vendent en 1767 cette maison, cette belle maison là-bas, en pierre, hein, avec four à pain, etc., à la famille allemande de Rochechinard. Puis ensuite, les propriétaires, ce sera Bruno Henry, une famille importante, très importante sur Saint-Romain. Pour finir, à des Audiers, beaucoup ont connu un certain Henri IV, qui était Henri Audier. Il a vécu avec ses parents là, pour après être ailleurs, à Monteux, voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour les Cantes. Alors, c'est dommage, nous n'avons pas pu pénétrer, mais on a aperçu déjà un four à pain, un mur en forme ovale de tour. Donc, c'était peut-être la base d'une tour. Et il y a des belles pierres de taille, voilà.
C'est là qu'il y aurait eu une chapelle, vous me disiez.
Oui. Toutes les maisons fortes de Saint-Romain. On m'a demandé pourquoi c'était maison forte. C'était des maisons de nobles, hein. Oui. Et donc c'était pas fortifié, mais c'était maison de nobles. Et donc elles avaient toutes des chapelles. Voilà.
Oui.
Voilà, on a tout prévu.
Moi, c'est mon fief, ça. Ah oui. Je suis né à Saint-Romain. Ah,
d'accord.
Et on va aller dans une ferme qui s'appelle Ferry, qui a été achetée par mon grand-père maternel. Et qui est maintenant arrivé à un petit-neveu des Idelons. Oui.
Donc vous connaissez bien...
Oh ben, je connais bien le coin. Oui. Alors par contre, oui, on ne prend pas souvent la balade dans ce sens. C'est pour ça que cette façade de maison Champon, là, je la connais pas très bien. Ouais. Non, mais il fait doux, il fait agréable, hein. On croit connaître, mais c'est bon de s'y arrêter. Hein?
Oui.
Là, c'est des belles maisons aussi.
Ça fait un moment qu'il y a des noix qui sèchent, là.
Comment?
Oui, ça fait un moment. Il y a un séchoir à noix à côté.
Oui, mais là, les séchoirs à noix, c'est moins vieux, hein.
Oui, oui, alors, mais ça...
Voilà.
C'est surtout après le phylloxéra.
C'est venu après. La noix est venue après le tabac.
Et après la vigne.
Après la soie, après les murs. Après la vigne, surtout. Après la vigne, c'est les murs. Voilà, et ça. Et là, nous, le château de Saint-André a eu des vers à soie, enfin, l'élevage des vers à soie. Et en fait, il a brûlé. Et c'est après, c'est devenu des séchoirs à noix. Donc voilà, l'évolution dans... Oh là, on voit bien, là. Oui. Alors l'ennui, bah, c'est qu'on est obligé de monter arbres, là-haut. On est obligé parce que derrière, quand on ne peut pas rentrer, le propriétaire n'est pas présent et il y a des alarmes. Donc si on pénètre.
Oui. C'est pas...
Mais là, on aperçoit bien le château de la Grange. Alors nommé Croupier pour certains,
ah bon,
Grimaldi pour d'autres, oui. Canel. Et c'est ici qu'a été signé un traité avec les Didières.
Voilà.
Ah, oui. Voilà. Dans l'histoire.
Il y a l'impératrice Zita qui est venue aussi.
Oui.
J'ai jamais pu y rentrer. J'habite Saint-Romain.
Mais... Oui, et c'est dommage. Alors, c'est très dommage parce que le propriétaire aurait été, enfin, disons, on l'a vu déjà deux fois, il dit non, je ne peux pas. Et puis, je n'y serai pas, donc il n'y est pas. Mais il nous a dit, mais ne regrettez pas grand-chose parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus de traces de la belle époque. Mmh. Il y a l'emplacement de la chapelle, mais cette chapelle n'a plus de toit pendant 20 ans ou 30 ans. Et du coup, tout ce qui était dans la chapelle, il y avait des livres, des terriers, des livres de valeur patrimoniale énormes, mais qui ont été tout pourris et jetés après. Ce qui fait que lui, il dit il n'y a plus de traces de, disons, de cette splendeur d'époque.
Mm-hmm. Voilà,
parce que c'était, ça a été, il y a même eu de Grimaldi, hein, les princes de Monaco. Madame de Grimaldi a été propriétaire pendant une certaine période, ici.
Parce que le père d'Henri Audier était
de prestigieux. Oh oui, sans doute, oui.
Oui.
Et les Henri aussi, je crois. Voilà, on a pris la route de l'Uselière. En fait, la route de l'Uselière est aussi la ferme Henri maintenant et le quartier de l'Uselière. Voilà. Et
la ferme Henri, c'est sur la route là, en redescendant vers Saint-Romain.
Oui,
à droite, c'est
oui,
ça.
Voilà. C'est les Gaillardonnières. Ici,
voilà.
On se dirige vers les Gaillardonnières. On a une vue magnifique sur le château. Et nous, chaque fois qu'on passe, on est désolé parce que le propriétaire actuel plante des arbres.
On va plus
et on se dit qu'on va bientôt plus voir le château.
Oui.
Et c'est trop dommage.
Oui.
Alors, heureusement, l'hiver, on y arrive encore à faire de belles photos. Alors, il a beaucoup de mal pour entretenir les murs d'enceinte. On le voit souvent à la base et nettoyer les buissons et tout ça. Et il fait lui-même, c'est pour ça qu'il est un peu épuisé. Et qu'il dit qu'il n'y a rien à voir dans le château. Par contre, ce nouveau propriétaire, M. Dufour, a été bouquiniste. Il avait une boutique à Grenoble, très connue, de rue Dominique Villard, derrière la place de Verdun. Et c'est un féru de livres anciens. Là, ce qu'il y a, c'est qu'on est obligé de voir l'arrière du château. Donc, on va quand même monter au château. Hein. Voilà.
Bon, est parti.
Je pense qu'il faut monter au château. Alors, on ne peut pas rentrer.
Avec ceux de Monaco, les thématiques.
Oui, oui. Oui, oui. Là, je pense qu'on va faire une station là-haut. Et on ne peut pas l'éviter parce que c'est trop important. C'est sûr que c'est un peu limité dans le temps, finalement. C'est pour ça que je disais qu'il nous faut occuper une voiture, parce que l'après-midi, ça sera assez fatigant. Hein. Parce que là, maintenant, on est sur une route goudronnée, où il y a des voitures, donc on fait un peu plus attention. Alors, vous voyez déjà, je disais que le propriétaire était obligé de nettoyer. Il a beaucoup de mal pour entretenir son mur. Son mur de soutien d'enceinte. Voilà. Alors, ce château, le premier propriétaire est un Pierre Copier, inféodé par Anne Dauphine, épouse de Humbert Ier, hein, déjà. C'est Pierre Copier qui fit hommage au dauphin Humbert II, après, un peu plus. Voilà, enfin, ceux de la suite. Après, moi, j'ai comme information, en 1403, un Allemand de Rochechinard, qui deviendra Rochechinard, hein, et de Lagrange. Bon, il y a des mariages, je suppose, avec les familles, voilà. En 1540, c'est Isoran de Lagrange qui est propriétaire. C'est la fille Blanche Isoran de Lagrange qui épouse un de Chastellier, donc des familles importantes aussi de toute la région. Il n'y a pas d'enfants, donc les biens vont à l'hôpital de Vienne, et au chanoine de Canel. Ah, voilà, donc ça a appartenu à ce chanoine de Canel. Le neveu de Jacques Canel, 1670, fils de Claude, directeur de l'hôpital de Grenoble, époque révocation de l'édit de Nantes, hein, 1685, les biens religieux des réformés. Donc, on est en pleine guerre de religion, après les guerres de religion, là. Et c'est finalement le chanoine de Canel qui reste propriétaire dans les années 1713. Après, c'est son neveu Daniel de Canel qui est propriétaire. Puis toute une lignée de Canel, toujours de Canel. Et c'est en 1788... un de Canel qui est ami du général de Grimaldi qui offre l'hospitalité à ce général de Grimaldi dans son château. Mais ce général de Grimaldi meurt en 1848 et c'est Madame de Grimaldi qui est héritière, qui restera propriétaire. Et après, alors un certain monsieur de Chaléon est tardi de mon travel.
Mais ces Grimaldi, c'était des collatéraux, des Grimaldi de Grimaud et en bas, là.
Oui, de Monaco,
oui. Elle était héritière, ça veut dire que ça venait beaucoup, de beaucoup plus loin, oui, parce que les Grimaldi sont forgés au début par alliance, alors, en 1500, par 1415.
Ouais. C'est beaucoup plus loin. Oui, parce que lui, ça serait François.
Mais elle, comme c'était par femme, elles sont arrivées à porter le nom des Grimaldi beaucoup plus loin. Mais c'est bien l'origine des Grimaldi sur le rocher.
Qui faisaient peur aux gens, tellement ils allaient vite. C'était des terribles.
Moi j'ai connu les Thomas qui étaient en ruine et qui ont été restaurés il y a une vingtaine d'années. Oui, il n'y a pas très longtemps.
C'était les Gisons qui étaient là.
Les Gisons, voilà.
Une dizaine d'années que ça a été restauré.
La grande maison.
Ça a beaucoup de gueule. Avec toutes ces grandes façades d'écurie.
Et puis ça en faisait partie.
Et oui, ici, mon père est venu y fabriquer la mousseline des Alpes.
Ah, c'est là qu'il a fabriqué.
C'est ici qu'on a commencé à la fabriquer.
Ah. Comment il s'appelait
Peuvet. Alphonse Peuvet.
Oui,
le frère, non, l'oncle de Mademoiselle Fillolle.
Ah, ah oui, c'est ça.
L'oncle,
oui.
Le frère de sa mère.
Oui, c'est ça, oui.
La mousseline des Alpes, c'était un alcool.
Quelqu'un a essayé de le rentrer, mais je crois que ça. Ça tombait en oubli. Hein.
Les gens de Beauvoir, les amis de Beauvoir, essayent de retrouver la formule.
Oui, c'est ça.
Il y a la formule, il est prévu.
Vous savez, il y avait des belles bouteilles avec des dauphins. Là. C'était des bouteilles. Il y en a encore dans les musées, on en vend. À Beauvoir, il y en a. Musée de Beauvoir, il y en a encore.
Je voulais dire que le traité de Lesdiguières s'est fait vers les 1605 ou 6 et a été signé ici. Le traité par lequel seuls les gens pour le roi paieraient l'impôt. Parce qu'avant, chaque partie essayait de récupérer une partie de l'impôt. Seul le roi de France avait le droit de recevoir l'impôt et donc tout a été signé ici avec les deux des parties sous Henri IV. Oui, voilà.
Mais Lesdiguières, c'est quel Lesdiguières? Parce que sous Henri IV, Lesdiguières, c'est plus vieux. Lesdiguières, il était gouverneur du Dauphiné.
Les guerres de religion.
C'est d'ailleurs
un peu avant Henri IV. Ces choses-là lui ont permis de d'être.
C'était des bons protestants, après il est devenu catholique. Enfin, c'était.
C'était peu de temps après sa conversion. Enfin, voilà. Voilà.
Saint Lesdiguières, il est pas venu à Saint-Martin. Hein. C'était Montgiron.
C'est Montgiron
qui avait abandonné en juin 1545, l'attaque de Saint-Martin par les Huguenots du baron des Adrets. Montgiron était à Saint-Martin avec ses 1500 hommes. Et quand il a vu des Adrets qui arrivaient, il a pris la trouille, il a laissé la garnison de Saint-Martin, qui avait 300 beaux braves types qui connaissaient pas plus les métiers des armes que moi, et il s'est barré, et Saint-Marcinos s'en fait battre à bas de couture, et des Adrets a tout dévasté, a pendu le fouilleur des Carmes sur la place Lacombe-Maloc, on verra la maison de Malo tout à l'heure, là, donc d'où vient Lacombe-Maloc. Et le gouverneur, le fameux Lacombe-Maloc, Charles de Lacombe-Maloc, a été traîné par les pieds par des chevaux sur les pavés de Saint-Martin et est mort traîné par les chevaux. Des pavés qui n'étaient pas les pavés de matin, c'est des pavés pointus. Hein.
Venez voir
la cave, les caves,
et puis sans doute la petite, une petite chapelle qui reste sans doute. Enfin, on n'est pas très sûr que ça soit une chapelle.
Il y a la pendule, elle est en bois.
La pendule est en bois, oui, le derrière les aiguilles, hein, des aiguilles. Là, il y avait de très très vieux marronniers, une allée qui était une allée de promenade pour les gens de ce château. Et ça se finit avec une statue de la Vierge. Hein. Voilà.
La
mousseline. Oui, sans doute. La mousseline.
Et on l'a conservée dans la grotte ?
Sans doute.
Voilà. C'est Suzanne Boisson qui sait sur la mousseline des Alpes.
Oui.
Il n'y en a plus.
Moi, je voulais encore une bouteille d'origine.
Oui,
pleine.
Ah, ça, voilà.
Elle a encore le produit dedans, oui, mais, de mousseline.
Oui, mais tu sais qu'à la longue, ça...
Mais d'ailleurs, c'est vrai, il y a la part des anges. Il en manque, ça.
Il en manque, oui.
Ah, oui, j'ai une bouteille d'origine de la mousseline, avec le liquide.
C'est bon ou c'est pas bon ?
Attends, elle est comment ta bouteille ?
Jaune, bizarre.
Non, mais c'est une bouteille de 1 litre. 1 litre ou 1 litre et demi ? C'était des grandes bouteilles.
1 litre.
Je l'ai montré
à plusieurs personnes.
On
a la photo.
Il y a la photo,
si
il y a l'étiquette. Oui, si les gens veulent la voir, je.
À l'origine, la première bouteille, c'était un dauphin, en forme de dauphin.
Oui, mais ça, c'était des bouteilles riches.
Populaire.
Enfin, là, c'est une bouteille, tout ce qu'il y a de plus.
Alors,
normal.
On n'a jamais osé la boire parce qu'on s'est dit, ce serait dommage de boire ce qu'il y a dedans. Parce que comme tout est d'origine, il y a l'étiquette, il y a le bouchon. Il en manque une partie parce que qu'on appelle la part des anges... Alors, est-ce que la part des anges, c'est le nectar qui est parti ou ça nous laisse le nectar à l'intérieur ? Je
ne sais
pas.
Le nectar a dû rester, mais c'est le liquide qui a dû s'évaporer.
Ouais. Mais je ne connais personne qui en ait avec du liquide.
Je pense qu'il va falloir qu'on aille plus loin, vers les Gaillardonnières. Hein.
À suivre cette balade patrimoniale, les maisons fortes de Saint-Romain avec l'association des amis du Vieux Saint-André, emmenée par Marie-Noël et François Capéran. Ce parcours numéro 5 est extrait du guide Bienvenue à Saint-André, édité par l'association.
Allez, on y va, on y va. Ouh, oui.